Nous voilà de retour de vacances. Alors, pour répondre à tout le monde en même temps, oui, ça s'est bien passé. La blague de l'année, c'est, bon, voilà, c'est fait. On est tranquille jusqu'à l'an prochain. Mais quand même, on a une meilleure opinion des vacances que ça, n'est-ce pas? Ça a été un bon moment. On a été bien isolés. On devait aller à un endroit où il y avait du réseau, il n'y en avait pas. Il devait y avoir de la Wi-Fi, ça ne marchait pas. Donc, on était bien, bien isolés au bout du chemin, hein, comme on aime bien, nous, être tout au bout du chemin, il n'y a rien après. On s'est senti bien. Alors, c'était beau. Il faut que je dise c'était beau, hein, c'était dans le pays de mon épouse. C'était beau. Hein? Il a fait chaud, on a eu un peu chaud, oui, on a eu cette semaine de ces quelques jours de canicule. On en a bien profité, hein, ça fait du bien, puis après il y a eu un peu de pluie, puis après voilà. Mais ce qui était bien, on était en altitude, alors ça rafraîchissait le soir, hein, mais pas pendant la canicule évidemment. Et donc on a à nouveau pu contempler les merveilles de la création de Dieu. On s'y est un peu frotté, on a même tutoyé nos limites, hein, sur certaines pentes, et ça nous a fait du bien. Il y a eu de l'émotion aussi, on s'est rendu jusqu'à Bordeaux, pour le mariage d'amis. C'était un bon moment, un grand moment, un moment de d'émotion intense. Et puis on a vu aussi un petit peu la famille Géraldine, donc voilà, ces vacances, hein, je ne peux pas tout vous raconter en détail. Si vous avez, je pourrais vous raconter peut-être à l'occasion certaines aventures, hein, et mes aventures, parce qu'on a un peu des deux, hein, quand on est en vacances. Mais on a, je crois, bien profité. Le Seigneur nous a permis un bon moment, un bon temps. Souvenir de vacances, parce qu'on était un petit peu loin de toute église. Et donc, on s'est retrouvé le dimanche dans notre gîte à se dire, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, Simon m'avait offert un petit livre, hein, qui dit « La Bible en 100 textes essentiels, un défi personnel ». Alors, je m'étais dit, c'est peut-être un livre pour un débutant, hein. J'ai regardé un petit peu, j'ai dit, il est gentil Simon, mais c'est peut-être un livre pour débutants. Et puis je lui ai dit, il m'a dit, papa, tu lis pas le livre, hein, que je t'ai acheté. Alors j'ai dit, écoute, voilà ce qu'on va faire, je vais l'emmener en vacances et on va le lire en vacances. Et donc, pendant ce dimanche où on était là, un petit peu au fin fond de nulle part, sans réseau et sans wifi, on s'est penché sur un de ces textes et on en a éprouvé du bien. Et donc ce matin, plutôt qu'une prédication, je voudrais simplement partager avec vous quelques méditations autour de ce texte que nous avons lu ensemble. On le trouve dans Genèse 15, page 14. Je vois que nos Bibles rouges ont du succès. Donc dans cette Bible rouge, page 14, tout au début. Voilà, Genèse 15. Et ce texte nous rapporte qu'après ces événements, on y reviendra certainement tout à l'heure, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Éliézer de Damas qui héritera de tous mes biens. » « Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non, cet homme ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur, des Chaldéens, pour te donner ce pays en possession. » « Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai ?» Je lui dis, « Va chercher une génisse, une chèvre et un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abraham alla prendre ses animaux, les coupa tous en deux par le milieu, excepté les oiseaux, pour que chacun d'eux disposât de 2 moitiés face à face. les oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas, et on en fera des esclaves, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage, et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la quatrième génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leur crime. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens. » Voilà ce chapitre 15. Une petite méditation à laquelle je donne le titre de « Promesse » au pluriel et « Encouragement » au pluriel de Dieu. Dieu fait ici à Abraham, qui n'est pas encore Abraham, hein, vous avez remarqué, il n'a pas encore changé son nom, il lui fait une promesse. « Ne crains pas, je serai ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Ici, Dieu fait allusion à la promesse qu'il lui fait au moment où il l'appelle à sortir effectivement de, comme on l'a lu, de Our, en Chaldé ou en Chaldé. Il lui demande, on peut le voir, vous le voyez au chapitre 12, hein, il l'appelle, il lui dit, sors de ce pays, je te donnerai un autre pays en possession, tu auras une grande descendance et toutes les nations seront bénies en toi. Voilà la promesse, un pays, une descendance nombreuse et une bénédiction si grande qu'elle va déborder sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est de la promesse, hein. Abraham est parti. Il est allé jusqu'en Canaan et il a vécu toutes sortes d'expériences. Des heureuses et des malheureuses. Enfin, ça a été quand même assez compliqué pour lui, hein. Si vous dégrainez les chapitres, hein, chapitre 12, il lui demande de partir. Dans le même chapitre, il subit une famine. Il fuit en Égypte, là, il craint pour sa vie. Il déclare que sa femme est sa sœur. Et puis, ça chauffe pour lui. Il revient en Canaan. À peine il est revenu, dispute avec son neveu. Ils ont trop de troupeaux. Le territoire ne peut pas les nourrir. Ils doivent se séparer. Et puis, le pays est tellement riche qu'il attise la convoitise d'un roi d'Élam qui porte un nom de fromage néerlandais. Un nom de fromage hollandais. Kedor Laumer. Ça m'a toujours fait sourire. Je me suis dit, tiens, il y a un fromage hollandais dans la Bible. Et donc, ce roi-là vient, fait prisonnier l'autre, et puis voilà que Abraham connaît la guerre. Il est forcé de délivrer son neveu. Il revient avec de grandes richesses, il y a des négociations avec le roi de Sodome, et puis finalement, il rencontre ce personnage mystérieux, hein, Melchisédek, qui le bénit. C'est à l'issue de cette rencontre que Dieu dit, après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. On a l'impression qu'il a vécu que des épreuves, n'est-ce pas? Ne crains rien. Tu as vécu que des épreuves. Ne crains rien. Pour l'instant, ce n'est pas comme probablement tu l'avais espéré. Mais ne crains rien. Je serai ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Alors, il est là comme un étranger. Il connaît que des épreuves. Dieu lui rappelle sa promesse. Mais quand même, il y a un problème. Et c'est un problème de taille. C'est un problème qui est particulièrement douloureux pour Abraham et pour sa femme Sarah. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Sarah est stérile. Alors, avec une certaine pudeur, Abraham épanche son cœur devant l'Éternel. Que pourrais-tu me donner ? C'est un étranger qui va hériter de tous mes biens. Le serviteur né dans ma maison. C'est vrai, il est dévoué, il est fidèle. Mais ce n'est pas mon fils. Je ne comprends pas. Je t'ai fait confiance, mais tout semble être au contraire. Tout semble aller de travers. Comment je peux devenir une source de bénédiction pour des nations alors que je n'ai même pas le premier descendant? Il faut comprendre qu'à cette époque, à la douleur de ne pas être parent s'ajoute la honte d'être stérile, puisque à cette époque-là, c'était considéré comme une malédiction. Comment je peux être une bénédiction alors que c'est la malédiction qui s'acharne contre moi? Et il y a là un paradoxe, n'est-ce pas? Dieu promet la bénédiction, Abraham vit la malédiction. Dieu promet un fils qui sort des entrailles d'Abraham, mais Sarah est stérile. Toute leur vie, ils ont voulu cet enfant. Et à cette époque, la médecine n'est d'aucun secours. Il n'y a pas de congélation d'ovocytes, il n'y a pas de... Enfin, voilà. Alors on voit, si on continue à lire, que Abraham et Sarah vont faire une tentative de GPA, de gestation par autrui. C'est la servante qui va être donneuse un peu, je sais pas, malgré elle. Et ça va créer bien des problèmes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Des problèmes tellement graves qu'ils perdurent jusqu'à aujourd'hui. Et puis de toute façon, quand bien même on trouverait une solution à la stérilité de Sarah, ben on est bien trop vieux. Quand Abraham est parti de Dour en Chaldée, il avait 75 ans. Sarah en avait 65. Le temps a passé, ils ont une dizaine d'années de plus, il a au bas mot 85 ans et Sarah 75. Alors on sait que il y a des grossesses tardives qui ont fait scandale, comme cette dame italienne qui a eu des enfants à 65 ans, où le corps médical s'est ému qu'on puisse pousser les choses à ce point. Mais à cette époque-là, c'est clair, les lois de la nature ne permettent plus d'avoir d'enfants. Ici, Dieu lui promet l'impossible. Il lui promet l'inimaginable. Il lui promet l'incroyable. Abraham croit Dieu. Après toutes ces mésaventures, et après une promesse aussi incroyable, Abraham croit. Il fait confiance à Dieu. Mais cette confiance a besoin d'être confortée. À quoi reconnaîtrais-je que je posséderais ce pays? Alors Dieu fait alliance avec Abraham. Parce qu'Abraham a besoin d'être rassuré. Abraham a besoin d'être encouragé. Et c'est ce que le Seigneur va faire, d'abord en renouvelant l'alliance. Il le fait sortir, Il le fait sortir et lui dit, regarde les étoiles du ciel. Alors dans le coin où on était, il n'y avait pas non plus beaucoup de lumière. Et ça, c'est super. On est sorti un soir et on a regardé la voûte. Ça fait partie des beautés que Dieu a créées. Alors comme ça, ça paraît juste un fond noir avec quelques... Enfin, c'est déjà impressionnant en soi. Mais si, voilà, vous pouvez regarder des images hein, de ce que les télescopes prennent, si vous pouvez regarder dans les galaxies, dans les novas, dans les amas, enfin voilà, il y a des couleurs, il y a de la beauté, c'est prodigieux. Regarde, si tu peux compter ces étoiles, ben voilà, ta descendance, elle sera pareille. Abraham, je te le garantis, je te le certifie. Et pour que tu sois sûr, je vais faire alliance avec toi. Abraham croit à Dieu. Ça lui a été imputé comme justice, dit ce texte-là. Et c'est le Paul, on l'a vu dans Romains, nous le présente comme la démarche de la foi. Cette foi, cette confiance qui plaît à Dieu et par laquelle il justifie l'homme. Pas par les œuvres, par la confiance que nous plaçons en lui. Et Abraham le fait avec une confiance toute simple. Il croit que Dieu est capable d'accomplir l'impossible pour transformer la malédiction en bénédiction. Et Dieu fait alliance avec lui. Alors, certainement, ça a dû être impressionnant. Hein? Alors, à cette époque-là, on faisait des sacrifices, il a coupé ses animaux en deux, l'obscurité est tombée, enfin, il y a tout un ensemble de choses. Hein? Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé là, mais simplement, l'Éternel passe entre ses animaux par une flamme et une fumée. Et il fait une alliance unilatérale avec Abraham. Il s'engage. Abraham, je te fais la promesse. Et je combattrai tous ceux qui s'opposeront à l'accomplissement de cette promesse. C'est ce qu'on peut voir hein, dans ce qui se passe là. Comment est-ce qu'on peut s'appliquer ça? Nous sommes au bénéfice de la promesse qui a été faite à Abraham, parce que cette promesse s'est accomplie. Dieu a conclu avec nous une alliance qui est scellée par le sang de son propre fils, son fils bien-aimé, Jésus-Christ. C'est ce que nous avons rappelé ce matin. Jésus est venu pour porter notre péché, pour nous purifier, pour nous laver, pour faire de nous des enfants de Dieu, afin que nous puissions être au bénéfice de ses promesses, de ses bénédictions et de tout ce qu'il a en réserve pour nous dans son éternité de gloire. Désormais, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont ce pouvoir hein, par Jésus-Christ d'être appelés enfants de Dieu, ils sont héritiers des plus grandes et des plus merveilleuses promesses. Dieu les fait hériter d'un lieu de bénédiction éternelle dans sa présence, un lieu de joie, de paix, de repos, de félicité éternelle. C'est ce que Dieu promet. Et il l'accomplira aussi sûrement qu'il a accompli les promesses qu'il a faites à Abraham. Alors peut-être comme Abraham, tu contemples ses promesses de loin. Mais aujourd'hui, tu vis la malédiction de la maladie. Ou peut-être la malédiction du deuil. La malédiction du handicap. La malédiction du chômage. La malédiction de la solitude. La malédiction de ne pas trouver tes papiers pour séjourner en France. La malédiction de relations conflictuelles dans ton foyer, dans ta famille, dans ton entourage, sur ton lieu de travail, où tu vis toutes sortes d'autres malédictions, la crainte, la colère, l'inquiétude. Tant de situations où toute solution te semble impossible. Vous savez, en méditant ce texte avec notre famille, pendant les vacances, nous nous sommes rendus compte que chacune et chacun, petit et grand, nous avions dans notre cœur quelque chose qui nous blesse, quelque chose qui nous fait souffrir, quelque chose que nous pouvions dire, partager, apporter, abandonner au Seigneur. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce à quoi ce texte nous invite.
C'est ce à quoi ce texte t'invite ce matin. Quelle que soit la malédiction que tu subis, parle-en au Seigneur. Apporte-la-lui. Ouvre ton cœur. Dis-lui ta souffrance. Dis-lui ton incompréhension. Dieu ne t'attend pas avec des reproches. Au contraire, tu vas trouver auprès de lui bienveillance et oreille attentive. Et comme il l'a fait pour Abraham, il le fera pour toi. Il va te rassurer. Il va t'encourager. Il va affermir ta foi. Il veut te faire ressentir sa présence. Il veut effacer tes peurs. Il veut prendre sur lui ta souffrance. Il veut prendre tes questionnements pour te permettre de surmonter tes épreuves et ta douleur par la confiance que tu places en lui, comme Abraham l'a fait. Ce texte nous dévoile aussi que Dieu sait des choses non seulement qui ne dépendent pas de toi, mais qui t'échappent complètement. Et vous avez remarqué que la destinée d'Abraham et de sa descendance était liée aux habitants de cette région. Leur crime n'est pas encore arrivé. Ah non, ils n'ont pas encore mis le comble à leur crime. Dieu est patient. Et son heure n'est pas la nôtre. Et pour que les promesses faites à Abraham puissent complètement s'accomplir, Dieu patiente jusqu'à ce que les péchés de ces hommes soient arrivés à leur comble. Alors aujourd'hui, Dieu est toujours patient, mais pas pour attendre que le péché soit à son comble. C'est l'apôtre Pierre qui nous ouvre le voile sur ce qui se passe dans 2 Pierre 3:9, où il dit: vous savez, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. Pour quelle raison? Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, au salut, à la connaissance de la vérité. La patience de Dieu traduit son désir de salut, traduit sa bonté, traduit sa bienveillance envers l'homme. Il veut tous les sauver. Et le Seigneur agit de la même bonne manière dans ta vie. Alors on ne peut que conclure par un temps d'action pratique, n'est-ce pas? Je voudrais vous laisser un temps pour que chacun, chacune puisse, dans le secret de son cœur, apporter au Seigneur son malheur. Seigneur, tu sais ce qui m'a fait mal, tu sais ce qui m'angoisse, tu sais ce qui m'inquiète. Montre-moi ce que tu es en train de faire dans ma vie et aide-moi à avoir plus confiance en toi. Prenons un temps pour parler au Seigneur. Si l'un ou l'autre le souhaite, évidemment je suis disponible, ou Paul, ou si c'est une sœur, hein, mon épouse, l'épouse de Paul, pour prier avec vous. Venez simplement nous voir à l'issue du culte. On va avoir un temps où on peut déposer devant le Seigneur ce fardeau, renouveler notre confiance en lui, réécouter, entendre sa voix qui nous rassure, qui nous encourage, qui conforte notre foi. Et si vous voulez, on pourrait conclure ce temps par un petit chant qui dit: je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je crois qu'il est suffisamment connu. Que le Seigneur vous encourage, vous réconforte, vous renouvelle dans votre foi et dans votre espérance. Amen.